un segment dans l'émission qui sert à discuter plus en profondeur d'un sujet d'intérêt, d'un sujet qui retient l'attention. Et depuis deux semaines, on suit avec attention ce procès qui se déroule du côté de London, en Ontario, des joueurs d'équipe Canada Junior qui sont accusés de ce côté-là. Et aujourd'hui, il y a quand même eu des... des rebondissements.
Ouais,
un autre rebondissement dans ce procès-là. Et pour en discuter, parce qu'on n'est pas nécessairement des grands connaisseurs dans le monde judiciaire, il y a Vincent Montminy qui est au bout du fil, avocat criminaliste chez Montminy et Associés. Monsieur Montminy, merci de prendre le temps de nous jaser aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Bonjour.
Premièrement, avant toute chose... Petit récapitulatif de ce qui s'est passé aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est que c'est la deuxième fois qu'un jury est dissous dans ce procès. Les 14 personnes, donc, qui, depuis les trois dernières semaines, écoutaient le procès, peuvent retourner à leur occupation habituelle et on va continuer, donc, le reste du procès devant juge seul. On n'a pas besoin de recommencer tout ce qui a été dit comme la dernière fois. On a expliqué, là, que certains jurés ont exprimé se sentir mal à l'aise à cause du comportement inacceptable des avocats qui représentent Alex Formanton. Il y avait l'impression, finalement, là, que les avocats riaient des jurés, discutaient de l'apparence et ça a suffi à ce que la juge hier mette un terme à la procédure en journée et que ce matin, on décide de commun d'accord avec la Couronne et la Défense de poursuivre, mais seulement devant un juge.
Maître Montminy, question d'emblée. Est-ce que c'est le genre de situation qui arrive fréquemment, ça, qu'on dissoudre le... Ouais, que le jury soit dissous du côté... deux fois, en fait, même dans le même procès?
J'allais dire non, encore moins deux fois. C'est la deuxième fois que le procès, la première fois, il y a eu un avortement du procès. Là, on s'attendra pas tant sur les mots, mais c'est la juge qui avait décidé à ce moment-là. On sait pas pourquoi présentement, parce qu'il y a une ordonnance de non-publication, on saura éventuellement, mais elle a décidé de dissoudre le jury.
Si vous voulez, Maître Montminy, je peux vous le dire, parce qu'en fait, elle a été levée, l'ordonnance, puisque c'est maintenant la juge seule qui poursuit. Alors, ça peut peut-être vous éclairer, puis nous, par la suite, avoir des explications. C'est qu'à l'époque, encore l'avocate d'Alex Formanton était visée par une interaction. Semblerait qu'elle aurait parlé à une jurée pendant la pause du dîner un mercredi 23 avril et que là, ce qui s'est échangé, bon, entre la jurée et l'avocate, c'est pas la même version des faits, mais ça suffit à dissoudre une première fois le jury à cette époque.
Parce qu'on veut éviter là, que le jury soit contaminé et que, ultimement, les procédures continuent et que, ultimement, la partie qui perd ait un appel en disant
ben « ouais.
Ah, on a eu un problème avec le jury ». Fait qu'on essaie un petit peu d'y aller en aval de ça plus tard parce que, vous l'avez dit, c'est la deuxième fois que le jury est sur les rails. C'est un procès qui est important. C'est un procès qui met en cause quand même équipe Canada. On s'entend, là, les Golden Boys de Team Canada. Et une jeune fille qui a eu à passer 9 jours à se faire contre-interroger par des avocats. Et je reviens un petit peu sur le but là, de la dissolution. Moi, ce que je trouve particulier, pour avoir fait plusieurs jurys, le jury n'entre pas dans la salle de cour tant que le juge n'est pas sur le banc. C'est lui qui fait rentrer le jury. Donc, ce qui a été invoqué par les jurés que, par rapport au comportement des avocats à leur endroit aurait dû être constaté par le juge si flagrant que ça. Parce que le juge, c'est lui qui convoque les jurés. Là, les jurés sont en arrière et rentrent une fois que le juge est sur le banc.
Ça, c'est intéressant aussi, mais vous avez dit pour éviter que ça se retrouve en appel le plus possible, on a comme l'impression que de toute façon, il va y avoir un appel dans une situation qui est aussi importante. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va survenir quand même?
Bien, les accusés dans ce procès-là ont joué le tout pour le tout, hein, parce que, advenant une condamnation, ils pourront pas plaider la carte des remords sincères, de la réhabilitation, etc. Ils sont allés le tout pour le tout, parce qu'on peut pas dire qu'on a des remords quand on a finalement fait valoir au départ que on l'avait pas fait ou que ça s'est pas passé comme ça. On appelle ça un peu parler de deux bords de la bouche. Donc, assurément, je comprends que le financement ne semble pas nécessairement le plus grand problème. Alors, oui, assurément, j'imagine qu'ils vont vouloir, en plus, sont allés le tout pour le tout dans leur stratégie en première instance. Si jamais il y a une condamnation, aller en appel. Il faudra voir aussi une condamnation sur quoi. Et assurément, s'il y en a une condamnation, et surtout, là, on va être tenté de dire, ouais, mais c'est quand même des vedettes, là, de Team Canada. Au contraire, ça va jouer en leur défaveur parce qu'on va vouloir, justement, dissuader d'autres joueurs de se sentir intouchables, impunité. Il y en a eu beaucoup, là, que ce soit dans les ligues de football ou dans différents corps de métier, cette espèce d'impunité-là qu'on ne peut pas réussir à faire condamner ces gens-là. Je ne sais pas là, quelle sera l'issue du verdict. Seul maintenant, la juge seule le sait maintenant. Mais sinon, c'est quand même quelque chose qui méritera assurément de la détention.
Je vous rappelle qu'on parle de ce fameux procès qui fait parler à la grandeur du pays des joueurs d'équipe Canada Junior. Ça a tellement fait couler d'encre. Vincent Montminy est avocat criminaliste chez Montminy et associés.
Étant donné que ça fait deux fois donc que ça concerne une certaine avocate, est-ce que vous pensez que ça peut être prémédité de sa part pour faire en sorte qu'on exclue carrément le jury et qu'on s'en va directement face au juge? Est-ce que ça peut être favorable aussi, cette situation-là, à la défense?
J'ai dit, on jouait le tout pour le tout pour les accusés. Là, cette avocate-là jouerait le tout pour sa carrière. Parce que, advenant, là, je vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui usent de stratégie là, un peu basse, mais ce serait vraiment jouer le tout pour le tout. Si c'était prouvé qu'elle a volontairement entravé le cours de la justice, c'est terminé pour cette avocate-là. Je comprends qu'ils n'ont pas pris non plus là, les premiers venus en termes là, de représentants juridiques de ces gens-là. Là.
Et question comme ça, est-ce que c'est plus difficile pour un avocat de la défense de convaincre un jury ou un juge seul?
C'est une excellente question. C'est la question qu'on se pose très fréquemment dans des dossiers justement de cette nature-là qui, à la base, peuvent attirer un préjugé favorable soit vers l'accusé, soit vers la victime. Dans le cas présent, on peut avoir de l'empathie ou de la sympathie pour les accusés, tout comme on peut l'avoir pour la plaignante qui a vécu quelque chose. Si c'est avéré, ces faits-là, et qu'elle n'était pas consentante, c'est effectivement épouvantable. Si ça ne l'est pas, eh bien, c'est une malheureuse histoire pour ces garçons-là qui sont accusés, qui font face à la musique, à quelque chose qui est peut-être jamais arrivé. Mais c'est certain là, que c'est quelque chose qui est très grave.
Et Maître Montminy, question comme ça pour la défense comme ça, parce que tu sais, c'est sûr que d'aller défendre justement un dossier comme ça, c'est pas nécessairement, on dit souvent, on cherche pas nécessairement à savoir si à 100% ce qui s'est passé, on veut aller décider si c'est hors de tout doute raisonnable. Est-ce que ça, c'est une vision qu'on a qui vient des séries, qui vient des films, ou c'est vraiment ça dans les faits?
C'est vraiment ça dans les faits. Par contre, pour faire une boucle avec la question précédente, des jurys, là, des jurés qui forment un jury, le doute raisonnable, ils l'ont, mais c'est des personnes normales. Alors, ils ont un doute raisonnable logique et non un doute raisonnable juridique, comme un juge seul va avoir. C'est-à-dire que eux autres, à un moment donné, 1 plus 1, même si dans le livre c'est marqué 1,5, eux, c'est 2. Et ça a toujours été deux, donc ça va être deux. Donc, à la question, est-ce qu'on va devant le jury ou non dans des procès comme ça, c'est toujours très difficile à gérer parce que il peut avoir de la sympathie, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais là, est-ce que, d'abord, nous, en défense, on doit en convaincre seulement un. Donc, on doit convaincre un seul juré que notre client est non coupable et on n'a pas de verdict favorable. Remarquez, on n'est pas plus avancé parce que si on a un verdict non favorable, on recommence un autre procès. Alors, parce que aussi, le but là, de la justice, c'est que ça aille à un terme. Bon, on prend les deux parties. Là. Moi, je me fais l'avocat du diable. Avant, c'est vrai, cette histoire-là, on dit souvent que le passage à la cour pour les victimes, c'est un deuil. Ouais, il faut qu'il commence le deuil à un moment donné aussi. Là, le deuil, il se fait juste frotter là, en ce moment. Là. En fait, on revit l'événement. Et c'est certain, là, pour en avoir vu souvent, c'est un exercice qui est particulièrement difficile de subir un contre-interrogatoire. Et comme je l'ai dit, c'est pas les premiers venus, c'est leur représentant juridique. C'est des gens, d'ailleurs, surpris qui se soient fait, entre guillemets, prendre à faire des grimaces aux gens, là, au jury. C'est vraiment un move d'amateur, là, comme on dit dans la vie, là. C'est pas quelque chose que tu fais du tout, là. Ça ressemble un petit peu dans le temps de la guerre des motards, où est-ce qu'il y avait un petit peu, dans les procès devant le jury, je me rappelle de Mom Boucher, où est-ce qu'il y avait des problèmes parce qu'il y avait des membres qui portaient des effigies, qui toisaient de la gare les jurés, là. C'est sûr, Hells Angels avec ses pattes sur le dos qui te regardent en se faisant des signes. Seigneur, ça peut être intimidant, on peut le comprendre. Mais dans le cas présent, c'est vraiment malhabile. Et puis, ça va, il y a des conséquences, là. Moi, être le client qui se fait dire, bon, OK, notre stratégie initiale qui est allée devant le jury ne marche plus à cause que, bon, on a dit que j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Donc, on se retrouve devant juge seul parce que c'était une option qui existait, juge seul, dès le départ. Et on choisit juge et jury deux fois plutôt qu'une. Mm-hmm. On peut croire que ça leur tentait d'être devant jury. Et là, tout d'un coup, ils ne le sont plus. Moi, en tant que client, je dirais, écoute, c'est passé un petit quelque chose. Le mandat, on dirait qu'il a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est probablement pas la satisfaction des clients parce que c'était pas la stratégie prévue, mais dans un procès, il y a toujours des impondérables, surtout un jury.
C'est vraiment une discussion super intéressante. Vraiment. Vincent Momini, merci beaucoup. C'est un domaine sur lequel on lit, qu'on voit, mais qu'on connaît pas nécessairement.
Toutes les subtilités, exactement. C'est fascinant.
Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairé aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Vous m'appellerez. Il semblerait que les avocats de la défense sont toujours rejoignables.
Oh, wow. Vincent Momini, avocat criminaliste chez Momini et Associés.
Le vendredi.